d'être à 17h au studio Kalungu. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information de ce vendredi 4 juin 2021. Au micro, Nafis Adam Sirfo. Au sommaire, le taux des femmes élues maires en 2020 au Niger dépasse le taux du quota. Le directeur général par intérim de la décentralisation et des collectivités territoriales explique dans ce journal. À Dingaz Banda, dans le département de Wallam, la population vit dans l'obscurité depuis 6 mois, a déclaré le maire de cette commune. Il évoque les causes dans un instant. En partie magazine, nous parlerons de l'impact de l'insécurité sur l'élevage dans certaines zones pastorales du Niger. Débutons ce journal avec cette brève. Mahamadou Issoufou, l'ancien président de la République du Niger, a reçu hier le prix Mo Ibrahim 2020 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. Selon l'hebdomadaire nigérien Sahel Dimanche, dans sa parution de ce matin, la cérémonie s'est déroulée en format virtuel pour des raisons de restrictions liées à la COVID-19. Le prix Mo Ibrahim est une récompense de 5 millions de dollars US qui permet aux dirigeants africains de poursuivre une action citoyenne sur le continent une fois leur mandat national achevé. Après l'installation des organes exécutifs, le nombre de femmes élues maires au Niger dépasse le taux du quota, a relevé le directeur général de la décentralisation et des collectivités territoriales par intérim. Il précise aussi que la compilation des listes se poursuit dans les communes. Moussa Oumarou, que je vous propose d'écouter.
Nous sommes en train de compiler la liste exhaustive de l'ensemble des femmes élues locales. Parlement faire le point de toutes celles qui sont dans l'organe exécutif de la commune, donc celles qui sont maires, première adjointe et deuxième adjointe. Mais l'appréciation que j'ai faite, en tout cas à partir du tableau que nous avions dressé, le nombre de femmes qui sont dans les conseils, puisqu'on a veillé quand même cette fois-ci que les femmes, dès la candidature, le quota soit respecté, mais à la déclaration des résultats aussi, ce qui a permis vraiment une présence assez remarquée des femmes sur l'ensemble du territoire et de l'ensemble des conseils municipaux. Donc à l'heure d'aujourd'hui, le nombre de femmes, en tout cas en termes de proportion, dépasse la proportion du quota que la loi leur avait attribué. Cette fois-ci, tous les dispositifs ont fonctionné au point où on a en tout cas barré la route à toutes les formations politiques qui ont eu quelques velléités à mettre les femmes de côté.
Je vous le disais dans les titres, cela fait environ 6 mois que la population de la commune rurale de Dingaz Banda, dans le département de Wallam, n'a plus d'électricité. Selon les autorités communales, le groupe du réseau de distribution a été détruit par des individus armés non identifiés. Souley Soumane Hima, nouveau maire élu de Dingaz Banda, explique au micro de Moussa Momouni.
Avant, nous avions l'électricité, mais il y a environ 6 mois, des bandits sont venus ici. Après avoir tenté d'arracher un véhicule qui a pu leur échapper, ils ont détruit le groupe électrogène qui alimente le réseau téléphonique. Depuis cet incident, l'agent de l'Angelec a quitté le village. Nous avons vraiment besoin de l'électricité pour charger les portables, brancher les réfrigérateurs pour avoir de l'eau fraîche, etc. Et même le mois du carême passé, personne n'a pu rompre avec de l'eau fraîche. Sur le plan sanitaire aussi, tous les vaccins doivent être conservés au frais. Nous sommes donc obligés de les envoyer à Wallam. Rien que pour la vaccination contre le Covid, ce sont les agents de santé de Wallam qui nous ont prêté leur glacière pour pouvoir l'effectuer. Cela nous préoccupe beaucoup. Nous souhaitons vraiment que les autorités intercèdent pour nous auprès de l'Angelec pour qu'elle nous trouve un agent qui viendra faire fonctionner notre groupe.
La réponse militaire ces 8 dernières années au problème d'insécurité au Sahel n'a pas bien fonctionné. C'est ce qui ressort du rapport de synthèse du mois de février 2021 sur la politique de stabilisation du Sahel. Selon le directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group, ICG, il faut réformer le lien entre l'État et les populations pour recréer les conditions d'une sécurité durable. Jean-Hervé Josekiel, directeur Sahel à l'ICG, au micro de Ternan Foudaï. Ahmed.
Nous, à Crisis Group, on a publié en février dernier une sorte de rapport de synthèse sur les politiques de stabilisation au Sahel, où on a essayé de souligner ce qu'il faut bien appeler l'échec des 7-8 dernières années de stabilisation au Sahel. Et on a essayé aussi d'identifier des pistes alternatives. Et notamment, une des pistes alternatives qu'on souligne, c'est le fait qu'on a trop donné la primauté, au fond, à une réponse militaire. On a trop misé sur, au fond, l'efficacité d'un combat contre-terroriste qui ne fonctionne pas ici. Et donc, on a appelé, au fond, à rééquilibrer les différents piliers d'intervention, qui sont la sécurité, le développement, développement et puis la gouvernance. Et notamment, on donnait trop d'importance, je pense, jusqu'ici au premier aspect, notamment dans sa dimension contre-terroriste. Et on appelle, nous, à un rééquilibrage et notamment à mettre au fond la gouvernance, la réforme de l'État et notamment la refondation d'un lien citoyen-État au centre des stratégies de stabilisation. Parce qu'au fond, c'est en réformant en profondeur le lien entre le citoyen et son État qu'on va recréer, au fond, les conditions d'une sécurité durable.
La suite de ce journal au Niger en milieu rural, c'est la femme nomade qui sauvegarde et valorise les acquis de la chaîne de l'élevage, estime la présidente de l'association Tassalouat qui signifie femme nomade. Cependant, à cause de l'insécurité dans certaines zones, ces femmes rencontrent des difficultés pour aller en transhumance selon Hadja Fadema. Elle est présidente de l'association Tassalouat. On l'écoute au micro de Tarnan Foudé Ahmed.
La femme qu'on doit appeler nomade, c'est une femme qui sauvegarde les acquis de ce qu'elle a trouvé. Par exemple, il y a des femmes qui font l'élevage des chèvres, d'autres troupeaux, d'autres qui font du fromage, d'autres qui font du lait, d'autres qui font du yaourt. Par exemple, parmi les femmes, il y en a qui font la peau même, comme des hommes. Là, nous, on veut que la valeur de l'élevage soit sauvegardée et que la femme nomade, elle soit sécurisée et que la femme nomade, elle soit aidée. Parce que la plupart des femmes nomades, elles ne sont pas en ville. Donc, celles qui sont en ville, elles ne sont pas nombreuses et en Brousse, il y a tout. Il y a la catastrophe, il y a la chasseresse, il y a toutes ces insécurités-là. Donc, ce n'est pas facile aujourd'hui de traverser le troupeau, de l'amener d'une main. Donc, on a vraiment besoin des gens qui vont nous soutenir, qui vont comprendre notre combat. Parce que c'est avec ces laits-là et cette viande-là que nous, on arrive à survivre.
L'Assemblée générale des Nations unies a décrété le 1er juin 2012 la Journée mondiale des parents pour mettre à l'honneur les parents du monde entier. À l'occasion de cette 9e édition, le sociologue rappelle le rôle d'un parent. Des détails avec Alouaye, joint au téléphone par Talat Bahar.
Le petit enfant qui vient de naître dans une communauté est appelé à acquérir un certain nombre de valeurs qui puissent lui permettre demain de pouvoir intégrer la communauté et vivre en harmonie dans cette communauté dans laquelle il est. Donc c'est pourquoi le rôle du parent est de transmettre ces valeurs-là à l'enfant dès le bas âge. Donc d'où on parle de l'éducation au niveau de la cellule familiale. Parce que le premier contact qu'un individu avec la société, c'est le contact avec ses parents. Aujourd'hui, malheureusement, l'éducation de base est en train de souffrir au Niger. Parce que l'éducation de base nécessite d'abord et fondamentalement la disponibilité du père, la disponibilité de la mère. Or, de nos jours, qu'est-ce que nous constatons? C'est que les parents n'ont plus de temps. Le père est pris. Il sort de la maison, à peine il consacre 2 à 4 heures de temps dans son foyer. La maman, idem, si elle travaille, si elle fait du petit commerce, elle n'a plus de temps.
La 28e édition de la fête de l'artisanat d'Agadez avec pour thème la résilience des entreprises artisanales dans le contexte de la COVID-19 a été célébrée le week-end dernier. Selon le directeur régional du tourisme et de l'artisanat d'Agadez, la pandémie de la COVID-19 a réduit les activités touristiques de la région. Explication avec Abou Haroun Baba au micro de Moussa Maman.
Le secteur de l'artisanat a suivi de plein fouet les conséquences de cette maladie. Parce qu'à un certain moment, même dans notre pays, il n'y a pas de circulation. Vous ne pouvez pas aller à Niamey, vous ne pouvez pas aller à Zander, alors que le secteur de l'artisanat profite du mouvement, donc des personnes, particulièrement du tourisme. Le tourisme a suivi des conséquences très négatives qui se sont répercutées sur le secteur de l'artisanat. Les gens se sont retrouvés à ne rien faire. Les gens se sont retrouvés avec des productions. Et il n'y a pas de vente, il n'y a pas de foire à l'étranger. On ne peut pas organiser des foires national, ce qui fait qu'on a entassé de production, il n'y a pas de vente et c'était vraiment très difficile, les artisans et le secteur de l'artisanat.
À Niamey, certains consommateurs se plaignent de la cherté de l'oignon. Cependant, selon le RECA, le Réseau national des chambres d'agriculture du Niger, le prix de l'oignon suit son cours normal comparativement aux autres années, explique Mme Nazir Fantamadi, chargée du système d'information du RECA.
Pour le moment, l'oignon est disponible sur le marché parce que les producteurs ont beaucoup produit l'oignon cette année vu la fermeture des frontières à cause du COVID-19. Donc, il n'y a pas eu tellement de transport vers les pays voisins. Au début, le sac même était vendu jusqu'à 8 000, le grand sac là, qui peut peser jusqu'à 130 kilos. Présentement, c'est l'oignon de Dalmi et il y a aussi l'oignon du Nigeria dans les marchés du Niamey. Le prix suit son évolution normale par rapport aux années antérieures parce que l'année passée, au même moment, l'oignon était vendu à 22 000 francs le sac. Et maintenant, le sac se vend à 25 000. Il n'y a pas eu de grande différence. Les années antérieures, au mois d'août, septembre, l'oignon de Galmi avait disparu. Mais cette année, je ne sais pas si l'oignon de Galmi va continuer à venir ou bien.
magazine de ce journal, l'insécurité qui sévit dans certaines zones pastorales du Niger impacte négativement sur la pratique de l'élevage, a déclaré le président de la plateforme paysanne, une situation que Jubo Banya qualifie d'extrêmement compliquée pour les éleveurs nigériens. Il explique au micro de Michel Deji.
Les zones pastorales, c'est-à-dire les zones où il y a du fourrage, c'est dans ces zones-là que sévit cette insécurité. Dans la région de Tillabéri, c'était au nord que nos éleveurs allaient. Aujourd'hui, avec l'insécurité, ces éleveurs ne peuvent plus aller. Sans oublier que même le fourrage ou le pâturage, la paille sèche, aussi est ramassé. Si vous observez un peu les camions qui transportent aussi la paille et tout est amené au niveau des gros centres urbains. Donc du coup, les éleveurs véritablement traversent une situation extrêmement compliquée parce que, bon... Ils ne peuvent aller ni à l'est, ni à l'ouest, ni au nord. Quand vous prenez dans la zone de Difa aussi, c'était dans le lac que les gens faisaient leur transhumance. Ce n'est plus possible. Avant, comment on faisait la transhumance? Une fois que l'hivernage s'arrête, une fois que les récoltes sont terminées, ils prennent les résidus et ils continuent vers le sud. Et après, dès que la pluie commence, ils remontent. Alors donc ça, ce n'est plus possible. Les mouvements sont impossibles. Le deuxième élément, c'est que de l'autre côté, avec l'insécurité, là-bas, ils sont pris. Quand ils reviennent par là, parfois, l'armée aussi les prend, puisque on considère que parfois ce sont ces mêmes éleveurs-là qui sont aussi dans le djihadisme. Donc du coup, eux, ils ne savent même pas où se donner la tête. Donc véritablement, c'est une vraie préoccupation pour le monde pastoral.
Quelles sont alors les conséquences directes de cette situation?
D'abord, le prix des animaux a augmenté. La dernière fois, on a eu des Ivoiriens qui étaient venus ici pour chercher des animaux, ils n'ont pas pu avoir. Les gens vont le sentir pendant la tabaski. Au niveau du lait, aujourd'hui, c'est des difficultés. Les éleveurs, eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont du mal à supporter le cheptel qu'ils ont. Il y en a même, on nous dit, il y en a qui sont rentrés en Algérie. C'est ça les indicateurs qui montrent que, effectivement, l'insécurité impacte sur l'élevage.
Quelle piste de solution préconisez-vous alors face à cet état de fait?
Nous, ce que nous avons dit, le premier élément, c'est qu'il faut dialoguer. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller faire à la hâte. Il faut aller doucement pour savoir qu'est-ce qui pousse les gens à aller dans cette situation-là. Et qu'est-ce que nous devrons faire pour qu'on puisse retrouver la paix? Parce qu'on en a véritablement besoin. Il n'y a pas de développement ici, il n'y a pas de paix. Le deuxième élément, c'est les intrants. De la même manière aujourd'hui que l'État doit se battre pour amener la nourriture pour les gens, et on doit aussi trouver de la nourriture pour les animaux. Et pourquoi ne pas initier aussi des aménagements spécifiques pour développer le fourrage? Et c'est possible parce que ça a été fait dans d'autres pays.
Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Après nos éditions d'information en langue nationale, vous pourrez suivre le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec Fatih Zakaria et des confrères des médias de Niamey à partir de 18h15. Bonsoir grande sœur. Enfin, aujourd'hui je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends grande sœur, apparemment vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.